Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Marion Calais. Bonsoir Marion.
Bonsoir Isabelle et bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir à l'heure de la riposte face à la flambée d'Omicron en France. Conseil de défense sanitaire cet après-midi, suivi d'un conseil des ministres. Alors quels seront les choix du gouvernement? On le saura tout à l'heure à 19h15. Conférence de presse de Jean Castex et d'Olivier Véran. On va suivre ensemble évidemment ces annonces avec nos spécialistes ici à la rédaction de RTL. A priori, ce qui semble être sur la table, retour des jauges pour les grands rassemblements, pas de couvre-feu pour le nouvel an, maintien de la rentrée scolaire. On va y revenir avec la rédaction de RTL. Et puis jusqu'à 20h, le regard d'un scientifique, Jean-Paul Stahl, 18h15, professeur émérite en maladies infectieuses au CHU de Grenoble. À 19h, le regard des entreprises avec le vice-président de l'association des DRH, des mesures sur lesquelles on va aussi évidemment largement revenir dans votre journal, Stéphane Geneste, bonsoir.
Bonsoir Manon, bonsoir à toutes et à tous. Le pass vaccinal présenté également en Conseil des ministres, entrée en vigueur voulue par le gouvernement à la mi-janvier. Alors comment sera-t-il contrôlé? On essaiera d'y voir plus clair. Lourdes sanctions pour le Paris FC et l'Olympique Lyonnais de football après les incidents lors de leur rencontre en Coupe de France il y a 10 jours. Ils sont tous les deux éliminés de la compétition. Le chômage encore en net recul en cette fin d'année, moins 500 000 demandeurs d'emploi en un. Et puis l'arrivée du Quintet Plus cet après-midi à Deauville, il fallait jouer le 2, l'As, le 11, le 5 et le 16.
Dans RTL Soir à 18h30, un peu de fantaisie, ça nous fera du bien avec Charlie et la chocolaterie sur scène en ce moment à Paris. À 18h40, on va défaire le monde, vos 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Sini et sa bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le programme.
Comme la semaine dernière et jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à la fin de la semaine, on défait le monde, tire le bilan de 2021 et se projette sur 2022. Ce soir, on vous parlera santé, d'antivax à vaccinophile, comment la France a basculé. On essaiera de comprendre, on remontera également aux origines de la raclette et on s'embrassera sous le gui avec un masque et avec un peu d'avance surtout.
À tout à l'heure, 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous, Claire Delorme, bonsoir.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous.
La tendance?
Eh bien toujours grise et humide avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, mais de plus en plus douce, 13 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 16 degrés pour la moitié sud demain après-midi.
On vous retrouve donc dans quelques minutes.
RTL Soir,
le journal, Marion Calais, Stéphane Geneste.
Dans une heure, donc à 19h15, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé, Olivier Véran, vont s'exprimer. On prend tout de suite la direction du Palais de l'Élysée où s'est déroulé un conseil de défense sanitaire cet après-midi. Il s'est achevé il y a quelques minutes, suivi d'un conseil des ministres, le tout en visioconférence. Bonsoir Thomas Després.
Bonsoir.
Alors la question ce soir, Thomas, est simple. Concrètement, que pourraient annoncer Jean Castex et Olivier Véran?
Alors c'est très difficile de vous dire avec certitude ce que diront tout à l'heure le Premier ministre et le ministre de la Santé, parce que jusqu'à la dernière minute les annonces peuvent encore changer. Ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on vous dit depuis ce matin sur RTL déjà, le gouvernement a plusieurs leviers. D'abord, il devrait y avoir des annonces concernant la vaccination. Là-dessus, le gouvernement veut aller encore plus vite. Il devrait donc y avoir des annonces concernant le délai entre la vaccination et la dose de rappel. Aujourd'hui, cette durée est de 4 mois. Selon nos informations, cela pourrait être réduit à 3 mois dès les tout prochains jours. On attend également des précisions concernant le port du masque en extérieur. Là-dessus, le gouvernement voudrait que les préfets prennent de nouvelles mesures localement. Concernant les grands rassemblements de plus de 1000 personnes, il pourrait y avoir le retour des jauges. En revanche, pas de confinement le 31 décembre, ni de report de la rentrée scolaire lundi prochain. En tout cas, ce soir, ce ne sont pas les pistes privilégiées.
Et Thomas, ce soir, c'est ce soir qu'a été présenté en Conseil des ministres le projet de loi qui contient le pass vaccinal.
Ouais, c'est véritablement sur ce pass vaccinal que le gouvernement devrait insister le plus ce soir et dans les jours qui viennent. Une transformation de l'actuel pass sanitaire, c'est-à-dire qu'à partir de la mi-janvier, pour accéder au restaurant, au théâtre ou aller au cinéma, la présentation d'un simple test ne suffira plus. Il faudra être totalement vacciné ou avoir une dose de vaccin et un test négatif si vous n'avez qu'une seule dose. Un moyen une nouvelle fois d'encourager la vaccination et de faire peser les contraintes sur les non-vaccinés.
Une précision signée Thomas Després en direct du Palais de l'Élysée pour RTL. RTL.
Un pass vaccinal donc qui pourrait être mis en place à la mi-janvier, Stéphane.
Avec cette interrogation, Marion, sur la manière dont il sera contrôlé. Alors, Alice Moreno, comment ça va se passer?
Eh bien, les responsables d'établissement seraient habilités à contrôler les identités des clients en cas de doute. Quant à la sanction, les fraudeurs risqueraient jusqu'à 1000 euros d'amende contre 135 aujourd'hui. Mais cela pose des questions de cadre légal. Aujourd'hui, seuls les agents de police judiciaire ont le droit de procéder à ces contrôles d'identité. Alors faudra-t-il changer la loi et octroyer à des privés un pouvoir qui était jusqu'à présent réservé à l'autorité publique? Une mesure que des spécialistes du droit jugent déjà anticonstitutionnelle. Ou bien les patrons de bars, de restaurants, de cinéma auront-ils la seule possibilité d'une vérification d'identité sans aucun pouvoir en cas de litige? C'est plutôt la piste privilégiée, nous dit-on. S'ils constatent une fraude, ils refuseraient simplement l'accès aux clients et seule la police aura le droit de sanctionner.
Explication d'Alice Moreno du service police-justice de RTL.
Voilà, quelques précisions encore donc attendues sur tous ces éléments, toutes ces mesures. 19h15 tout à l'heure, les annonces donc du gouvernement. Et en attendant, les créneaux de vaccination sont pris d'assaut, que ce soit pour recevoir une dose de rappel, une première dose, ou même pour les enfants.
Oui, hein, Marion, depuis mercredi, les jeunes de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner. Illustration à Nancy, où un centre de vaccination uniquement dédié à nos chères têtes blondes a ouvert ses portes. Et le lieu peut surprendre, hein, puisque c'est au cœur du muséum aquarium de la ville. Et tout est fait pour rassurer les enfants. Résultat, Samuel Goldschmidt, ça marche, les créneaux se remplissent vite.
Oui, les rendez-vous se complètent à toute vitesse une fois que les parents ont découvert ce centre après quelques errances sur Internet.
En cherchant mieux, je suis tombée sur Hôtel de Ville et puis il y avait un sous-truc aquarium spécial pour les enfants. Donc effectivement, j'ai pris un des premiers rendez-vous en me disant c'est les vacances, comme ça il sera tranquille.
Et on ne se sent pas du tout dans un centre de vaccination. Arche de ballon, décoration de Noël, dessin animé sur grand écran, animation.
Je suis magicien. Et je suis là pour distraire un peu les enfants.
Olivier Babel, infirmier, coordonne la logistique de ce centre pédiatrique.
Pour le moment, on est sur un centre très spécifique avec deux chaînes de vaccination. On a accordé un temps hyper confortable aux enfants, aux parents et aux soignants, puisqu'on est sur des créneaux d'une demi-heure par enfant. Donc on a une capacité aujourd'hui pour le premier jour et voir un petit peu comment on va se projeter dans les jours à venir, d'une quarantaine à 50 personnes sur aujourd'hui.
Pas de tente de la Croix-Rouge, pas d'équipement médical apparent, tout est fait pour calmer les angoisses. Mathieu Klein est le maire de Nancy.
À la fois, il est possible de prendre le temps, de discuter, de dédramatiser, de rassurer aussi les parents qui sont souvent plus inquiets que les enfants eux-mêmes. Il faut leur proposer un endroit qui permette de les mettre à l'aise, de les mettre en confiance et de les encourager.
C'est le premier centre du genre dans le Grand Est. Il complète celui de l'hôpital pour enfants de Nancy.
Reportage de Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans le Grand Est. Et puis en bref, le variant Omicron continue d'affecter le transport aérien. Aujourd'hui, ce sont 2500 vols qui ont été annulés à travers le monde à cause d'équipements page malade ou uniquement cas contact.
RTL, 18h07. Votre journal se poursuit dans un instant. Le Paris FC et l'Olympique Lyonnais sanctionnés après les débordements en Coupe de France il y a une dizaine de jours. À tout de suite.
Marion Calais.
RTL Soir. RTL Soir.
Avec Marion Calais.
RTL, 18h09. Merci d'être avec nous ce soir. La suite du journal avec vous, Stéphane Geneste, et avec cette sanction très lourde attribuée au Paris FC et à l'Olympique Lyonnais. Les deux clubs sont éliminés de la Coupe de France.
La commission de discipline de la Fédération française de football a rendu son verdict cet après-midi. Match perdu pour le Paris FC et l'OL après les incidents survenus en tribune lors des 32e de finale de la compétition, il y a de ça une dizaine de jours. Des images marquantes, une rencontre arrêtée à la mi-temps sur le score de 1-0. Bonsoir Nicolas Georgerot.
Bonsoir.
La fédération a donc frappé fort.
Oui, le calendrier était serré, on pouvait s'en douter, c'est confirmé, ce 32e de finale ne sera pas rejoué cette semaine. Les deux équipes sont bel et bien éliminées. Première conséquence sportive, Nice, qui devait affronter le vainqueur de ce match, est déjà qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France. Lyon ne pourra pas compter sur ses supporters lors des matchs à l'extérieur. Aucun déplacement autorisé, et ce, jusqu'en fin de saison. Il y a aussi et surtout une épée de Damoclès. Si les supporters de l'OL provoquent une nouvelle interruption de match dans les prochaines semaines, les prochains mois, en championnat par exemple, ça entraînera automatiquement une exclusion de l'OL de la Coupe de France à partir de la saison prochaine. Enfin, le Paris FC, qui n'a pas été irréprochable selon la commission dans l'organisation de la rencontre, devra jouer ses 5 prochaines rencontres hors de Charletti. Le terrain du sud de Paris est suspendu.
Précision signée Nicolas Georgereau pour RTL. Merci beaucoup Nicolas.
Des chiffres à présent et ils sont bons, ceux du chômage en net recul.
Avec 500 000 demandeurs d'emploi de moins en un an, le nombre de personnes inscrites en catégorie A à Pôle emploi a également baissé sur le mois de novembre. Une tendance qui profite surtout aux jeunes, Marie Guerrier.
Oui, le chômage des moins de 25 ans a diminué de 2% en novembre, de 10% en un an et il est à son niveau le plus bas depuis octobre 2008. Toute classe d'âge confondue, dans cette catégorie A, des demandeurs d'emploi qui n'exercent aucune activité, on compte aujourd'hui 3 321 400 chômeurs. La baisse en novembre est d'1,7% et de 13% sur un an. 2021 efface le choc de l'arrivée du Covid sur le marché de l'emploi en 2020, sauf en Île-de-France, la seule région qui n'a pas retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire. Alors quand on regarde les catégories B et C, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui exercent une activité réduite, là, le chiffre est en hausse en novembre de 0,7%. Ça veut dire qu'une partie des chômeurs qui trouvent ou retrouvent un emploi signent des contrats à temps partiel. Et puis, il y a ceux qui partent en formation ou sont en insertion ou sont radiés de Pôle emploi. Et si on additionne tout ça, catégories A, B et C, le nombre de chômeurs en France est repassé sous la barre des 5 700 000, une baisse de 5,7% sur un an.
Décryptage de Marie Guerrier pour RTL.
Un appel à l'aide ce soir sur RTL, appel à l'aide au gouvernement d'une famille lyonnaise.
Benjamin Brière, un touriste français, est détenu depuis un an et demi en Iran. Il est accusé d'espionnage pour des photos prises avec un drone. Et après 20 mois de détention, il vient d'entamer une grève de la faim. Sa famille lance un appel au ministère des Affaires étrangères. Écoutez Blandine, sa sœur.
Aujourd'hui, un cri d'alarme parce que Benjamin a entamé une grève de la faim le 25 décembre parce qu'il était censé pouvoir appeler sa famille pour les fêtes, chose qui lui a été refusée au dernier moment. Plus d'un an et demi de détention même, avec zéro information, enfin zéro évolution, zéro perspective, pas de procédure judiciaire, pas de cours qui a pris le procès en main. Il a un manque d'intimité évident dans le sens où ils sont très nombreux dans les cellules, mais surtout à part ça, c'est une torture psychologique tous les jours dans le sens où les appels lui sont refusés parce que parce qu'ils ont décidé que c'était plus le moment finalement. Il est entouré de détenus qui sont eux aussi pour certains condamnés à mort et il y a cette ambiance aussi qui se dégage de ça où Benjamin en est conscient, Benjamin entend aussi des choses et peut pas tout nous retranscrire par téléphone parce que tout est enregistré pendant nos échanges. Aujourd'hui la France fait ce qu'elle peut, mais aujourd'hui on en demande bien plus, on appelle à notre gouvernement pour le faire sortir de là parce qu'il n'y a aucune évolution depuis bientôt 20 mois.
Voilà l'appel à l'aide de Blandine Brière au micro RTL de Bertrand Frachon.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et elle est surprenante, cette bonne nouvelle aujourd'hui, puisque une huître, pas comme les autres, a été récoltée dans le Finistère. Une huître, tenez-vous, prête de 2 kg 200 g. Une belle bête. Alors attention pour les proportions. 26 cm de long, 13 cm de large, 10 cm d'épaisseur. Pour la petite histoire, il s'agirait d'une huître oubliée qui a pu s'enfuir dans le sable dans un coin du parc
Austré-École.
Elle n'a pas, qui n'aurait pas travaillé, elle aurait 15 ans, cette huître.
Et elle se mange ?
Et elle se mange. Alors ici, RTL, toute la rédaction a sorti sa calculette. Pour répondre à cette question, combien de personnes elle peut nourrir ? Eh bien, on a compté, on a divisé, on a multiplié 6 personnes. Voilà. Et est-ce que vous savez comment l'ouvrir cette huître de 2 kilos ?
Au couteau, ça va être compliqué.
Voilà, petit indice. Au marteau, et au burin, tout simplement.
Avec un risque toujours de se couper la main, même au marteau
plus, ouais.
Et au burin. Merci beaucoup, Stéphane Geneste. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Alors, le temps maintenant, Claire Delorme, douceur et grisaille toujours au menu.
Oui, absolument. Et donc la grisaille, c'est pas fini parce qu'on a une nouvelle perturbation qui arrive en ce moment donc par l'Atlantique. Elle va générer beaucoup de vent sur le littoral avec des rafales jusqu'à 100 km/h sur les Charentes-Maritimes et la Vendée. Et puis associé à ça aussi d'importants cumuls de pluie sur le centre-ouest. Donc demain en matinée, on va surtout la retrouver sur le quart sud-ouest du pays. Donc elle va concerner la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Limousin, là encore les Poitou-Charentes avec des pluies actives. Pluie aussi que l'on va retrouver de l'ancienne perturbation, mais cette fois-ci à l'est du pays, de la région Rhône-Alpes, en remontant vers les Ardennes. Et puis donc dans l'après-midi, cette nouvelle perturbation, elle va progressivement investir l'Auvergne et puis la région Rhône-Alpes. Le golfe du Lion, quant à lui, sera protégé, mais toujours quand même avec une ambiance nuageuse. Nuages que l'on retrouvera également sur le tiers nord du pays, mais beaucoup plus sec, avec juste quelques averses en fin de journée, essentiellement vers les Hauts-de-France et là encore en direction de l'Alsace. La douceur, elle est là, elle est présente, c'est vraiment plutôt sympathique pour une fin d'année. En tout chroniqueur, regardez 13 degrés l'après-midi à Metz, tout comme à Dijon, 14 degrés à Limoges, 19 degrés que ce soit à Tarbes ou à Biarritz, s'il vous plaît. Manquerait plus qu'un petit peu de soleil pour que le printemps s'invite
exactement,
en fin d'année.
Exactement, qu'on se croit au printemps.
Absolument.
Merci Claire Delorme.
La brigade RTL Soir.
Et maintenant sur RTL, la brigade RTL regarde du côté de chez nos voisins et même un peu plus loin pour voir comment eux ont réagi face à Omicron, alors qu'on attend dans une heure maintenant très précisément les annonces et la conférence de presse du Premier ministre et du ministre de la Santé en France. Bonsoir Bénédicte Tassard.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors il y a d'abord ceux chez nos voisins et ailleurs qui ont sérieusement serré la vis. Hein.
Oui, autour de nous les mesures de restriction sont donc beaucoup plus strictes. Les Pays-Bas d'abord. On rappelle que les Néerlandais n'ont pas eu le droit d'inviter chez eux plus de 4 adultes pour fêter Noël. Et ce sera pareil pour la Saint-Sylvestre. Pas de rentrée scolaire avant le 9 janvier. Les magasins non essentiels, les bars, les cinémas sont fermés. Eux, jusqu'au 14 janvier, au moins. Mais cela dit, le nombre de personnes infectées est en baisse. Le Royaume-Uni réfléchit à un plan C. Le plan B, mis en place avant les fêtes, n'est pas assez efficace contre Omicron. Le pass sanitaire pour les grands rassemblements, les boîtes de nuit se révèlent insuffisants. Boris Johnson ne voulait pas serrer la vis avant Noël, mais les députés de l'opposition risquent de taper du poing sur la table. Ça sera demain, lors d'une réunion d'urgence à Westminster. Et puis, au Portugal, le télétravail est obligatoire. Il est requis un test en plus du vaccin pour vous rendre un spectacle ou un match. De nouvelles mesures, il en est aussi question en Allemagne, où Olaf Scholz se réunira avec les dirigeants des Länder, les régions allemandes, mais après les fêtes, le 7 janvier prochain.
Tout au nord de l'Europe aussi, on s'inquiète, hein, Bénédicte.
Oui, parce que le variant Omicron, il affiche un record, que ce soit au Danemark, en Islande, en Norvège. Alors, il y a moins d'hospitalisations, les cas sont moins graves, mais le Danemark a quand même décidé de la fermeture, le soir, des bars et des restaurants.
Et aux États-Unis ?
Alors, la grande info de cette journée, c'est le vaccin obligatoire pour travailler à New York. Pas seulement dans les sièges des grandes entreprises, mais partout, dans les magasins, chez les artisans. On regarde aussi, si vous le voulez bien, Israël, qui commence à injecter la 4e dose sur les soignants. Vaccination obligatoire également pour tout le monde en Équateur.
Et il y a un constat à travers le monde, c'est que la flambée des cas Omicron, elle perturbe considérablement les transports internationaux.
Oui, parce que ça circule. Alors, plus de 2000 vols annulés dans le monde aujourd'hui, surtout en Chine, en Indonésie et aux États-Unis. Omicron laisse sur le carreau pas mal de personnel aérien. Les bateaux de croisière sont aussi obligés de rester en pleine mer. 60 d'entre eux ne peuvent accoster aujourd'hui car contaminés.
Les transports face à Omicron, on y reviendra tout à l'heure dans les dessous de l'actu avec Arnaud Touche, ce sera à 18h30, explication pour la brigade RTL, Bénédicte Tassard, merci. Une petite pause et dans un instant, alors que le gouvernement va présenter ses mesures face à Omicron, notre invité Jean-Paul Stahl, professeur émérite en maladies infectieuses à l'université de Grenoble. A tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir avec Marion Calais.
Bonne fin de journée avec RTL et entre lassitude et attente, le Covid chamboule à nouveau nos fêtes de fin d'année. Le variant Omicron fait exploser les cas de contamination. On en comptait plus de 100 000 samedi, du jamais vu depuis le début de la crise sanitaire. Une situation qui pousse le gouvernement à réagir. Conseil de défense sanitaire, conseil des ministres cet après-midi. Bonsoir Jean-Paul Stahl.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite en maladies infectieuses à l'université Cité de Grenoble. On attend, comme vous, hein, les décisions du gouvernement. Mais déjà, est-ce que, comme le directeur du SAMU de Seine-Saint-Denis ce matin sur RTL, vous dites, de toute façon, quoi que le gouvernement annonce, il est trop tard ?
Il est tard. Trop, je ne sais pas encore. Mais il est tard. Plus de 100 000 cas au quotidien, vous imaginez, 100 000. Et une incidence qui est à 1500 pour 100 000 à Paris. C'est considérable. C'est considérable. Donc, arriver à freiner ça avec des mesures qui ne sont pas trop contraignantes pour notre vie quotidienne, ça va être très, très, très compliqué. Et je ne sais pas comment ils vont faire.
Alors qu'il est Jean-Paul Stahl, il ne semble pas envisager de reporter la rentrée scolaire. Il est question en fait aussi de réduire la durée d'isolement des cas contacts d'Omicron. Tout semble fait pour permettre aux entreprises de continuer à fonctionner, aux salariés de travailler. Est-ce qu'on ne privilégie pas là l'économie au détriment du sanitaire, sachant que ce sont les actifs entre 20 et 50 ans qui sont aujourd'hui les plus touchés ?
Clairement, oui. C'est-à-dire que sur ce que l'on voit maintenant, alors je peux pas préjuger de ce qui va être décidé tout à l'heure, mais c'est clairement l'économie qui est en train de gagner sur le sanitaire, si on peut présenter ça comme un match. Mais très clairement, c'est le cas.
Et c'est un constat que vous faites avec regret ?
Ah, c'est un bien. En tant que médecin, je peux pas être satisfait de ça. Maintenant, il faut aussi être lucide. Il n'y a pas que le sanitaire qui préside aux décisions. Il y a bien entendu l'économie, on vient de le dire. Il y a la sociologie, il y a la politique. Il y a plein de paramètres. Le médical en étant une des composantes. Mais enfin, quand on dit médical, on dit hospitalisation et on dit mort. C'est pas rien.
Aujourd'hui, justement, les hospitalisations semblent avoir atteint un plateau en France. Est-ce que, justement, aujourd'hui, on dit que ce sont les plus jeunes, les actifs, en tout cas 20-50 ans, qui sont les plus contaminés? Si demain, les personnes les plus vulnérables devaient être touchées, vous craignez une nouvelle augmentation?
Ah ben certainement. De toute façon, c'est mécanique. C'est mécanique. Plus il y a de cas, plus il y aura d'hospitalisés, plus il y aura de décès. C'est vraiment... c'est assez linéaire. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on ne peut être qu'inquiet sur la masse des contaminations, en sachant que la répercussion sur l'hôpital se situe en gros entre 10 et 15 jours après le constat des chiffres de contamination. C'est-à-dire que l'hôpital va déborder grossièrement à la mi-janvier.
Alors Jean-Paul Stahl, on attend donc les annonces du gouvernement. On évoque notamment un retour des jauges pour les grands rassemblements. Ça, c'est une mesure assez marquante tout de même.
Ah, ça serait une mesure de bon sens. Ça serait une mesure de bon sens parce que bien évidemment, pour contaminer quelqu'un, il faut être proche de lui. Donc si vous distanciez les personnes les unes des autres, vous réduisez le risque de contamination. Donc effectivement, les jauges pourraient être une solution, mais pas des demi-jauges qui satisfont les uns les autres, des vraies jauges. C'est-à-dire, je dis comme ça, sans avoir fait le calcul, pas plus de 10 personnes à la maison, pas plus de 20 personnes à un anniversaire, etc., etc. Moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est les rassemblements du 31 janvier.
Justement, que craignez-vous pour le nouvel an ?
Oh, il faudrait que tout soit annulé, je suis désolé. C'est triste à dire, hein. Je suis le premier à le dire. Mais il faudrait, si on ne parle que sanitaire, il faudrait pas qu'il y ait de rassemblement autre qu'un rassemblement familial où tout le monde sait qui est qui et tout le monde connaît les tests de tout le monde.
Donc des restrictions plus dures, c'est ce que vous dites. En même temps, on voit bien cette ligne de crête à la fois entre le sanitaire et l'économie, entre les restrictions et des mesures peut-être un peu moins souples. Mais il y a tout ça dans cette équation-là. Il y a aussi la question de la lassitude des populations face à ces mois et à ces deux années de pandémie. Je voulais vous faire écouter, Jean-Paul Stahl, le témoignage d'un patron de bowling à Moucron, en Belgique. Normalement, lui, il aurait dû fermer, mais il a décidé de se rebeller comme d'autres établissements et il assume au micro RTL d'Antoine Decarne.
On ne comprend pas pourquoi la culture et certains centres de loisirs bien cités doivent fermer, en fait. On pourrait ouvrir demain le bowling, en fait, sans l'activité bowling. On pourrait ouvrir le bar, servir les gens à table, sauf que forcément, sans l'activité bowling, c'est pas une activité qui fonctionnerait. C'est complètement absurde, donc c'est pour ça qu'on souhaite désobéir au gouvernement.
Quand on entend ça, Jean-Paul Stahl, on voit aussi justement les limites d'éventuelles mesures de restriction. Il y a une vraie lassitude après 2 ans de pandémie.
C'est certain. Tout le monde est fatigué, mais y compris et surtout les soignants qui sont appelés à faire un maximum d'heures supplémentaires dans les hôpitaux et à qui on va demander encore plus dans les quelques semaines qui viennent. Donc tout le monde est fatigué. Mais simplement, il faut, et c'est là où c'est, je pense, dommage, mais c'est un vrai problème de société qu'on va pas résoudre en deux jours. C'est que on a un peu l'impression que c'est le chacun pour soi. On a perdu la dimension d'un effort collectif, parce que le virus, il a pas d'idéologie, hein. Le virus, il joue pas au bowling et il va pas dans les bars. Il va avec les individus qui le portent, et c'est tout. Et si on ne s'y met pas tous les uns et les autres, on n'en sortira jamais.
Et la solidarité, donc, comme maître mot. Dans le même temps, il y a la volonté de freiner l'épidémie, mais on évoque la possibilité de réduire les durées d'isolement pour les cas contacts Omicron. On ne prend pas un risque, là, si c'est confirmé tout à l'heure ?
Si. Si, sur le plan sanitaire, il y a un risque. Mais là encore, ce qui sous-tendrait, si jamais elle était prise, cette mesure, c'est la diminution des arrêts de travail. Et donc c'est, encore une fois, l'économie contre la santé, et en essayant de sans doute trouver des cotes mal taillées pour les uns et pour les autres. Mais c'est, je pense, une erreur. Encore une fois, le virus, il circule d'un individu porteur à un individu récepteur. Donc si on ne met pas une barrière entre les deux, ou si on ne rend pas immun le récepteur pour qu'il ne soit plus récepteur, ça s'appelle la vaccination. Mais si entre les individus on ne met pas une barrière, il y aura une transmission. C'est vraiment très simple.
Alors, le maître mot reste la vaccination. On parle désormais de faire passer la dose de rappel de 4 mois à 3 mois après la dernière injection. On risque pas de perdre les gens avec toutes ces mesures et tous ces changements successifs ?
Alors, la vaccination, le problème, mais ça on peut difficilement faire autrement, c'est-à-dire qu'on apprend avec le temps. On a appris avec le temps qu'un schéma à 2 doses n'était pas suffisant, mais qu'il fallait un schéma à 3 doses, ce qui n'est pas surprenant, hein. Il y a de multiples vaccins tout à fait routiniers, comme la diphtérie, tétanos, etc., pour lesquels il faut 3 doses. Donc ça sera pas le premier, ça sera sûrement pas le dernier. Donc là, jusque-là, rien d'extraordinaire. Après, les injections de vaccins, c'est toujours un équilibre entre retarder la dernière dose de rappel pour avoir une bien meilleure immunité et avancer cette dose de rappel pour avoir une protection la plus rapide possible. Et tous les schémas vaccinaux qui sont proposés tiennent compte de cette espèce d'équilibre entre ces deux impératifs qui sont finalement antinomiques. Là, on est dans l'urgence. Il faut protéger d'urgence les personnes afin de leur éviter d'acquérir des formes graves, d'aller à l'hôpital, etc. D'où la diminution du délai qui est adapté à cette exigence. On a fait bouger le curseur. Alors, sur le plan médical, comme ça, c'est pas compliqué. C'est quelque chose qu'on connaît parfaitement et qu'on maîtrise très bien. Je comprends que l'explication pour le grand public soit un petit peu plus compliquée, mais il y a un vrai effort de pédagogie à faire de ce point de vue-là. Ça, c'est certain.
Un vrai exercice d'équilibriste, donc, à la fois sur le plan sanitaire, économique, social, on l'a bien compris. Merci beaucoup. Jean-Paul Stahl, professeur émérite en maladies infectieuses à l'Université de Grenoble, d'avoir été en direct avec nous dans RTL Soir avant les annonces tout à l'heure à 19h15 du gouvernement. Dans un instant, le rappel des titres et la météo. À tout de suite.
RTL Soir.
RTL. 18h31, vous écoutez RTL Soir si vous nous...
Marion Calais.
Et si vous nous rejoignez dans, à tout de suite, le point sur les titres de l'actu avec vous, Stéphane Geneste.
Jean Castex et Olivier Véran vont s'exprimer dans 45 minutes maintenant à 19h15. Une prise de parole pour détailler les décisions du gouvernement pour faire face à la 5e vague de la pandémie de Covid. La Fédération française de football a frappé fort après les incidents aux tribunes il y a une dizaine de jours. C'était lors du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC FC et l'Olympique Lyonnais. Les deux clubs sont tout simplement éliminés de la compétition. Et puis, le chômage encore en net recul en cette fin d'année. Sur l'année 2021, il aura tout de même reculé de plus de 500 000.
Merci Stéphane, bonne soirée. Le temps pour demain, Claire Delorme.
Eh bien, ça s'annonce encore bien perturbé puisqu'on a une nouvelle perturbation qui va investir en ce moment l'Atlantique. D'ailleurs, elle génère un beau coup de vent, plus de 100 km/h pour les caps les plus exposés sur les Charentes-Maritimes et la Vendée, et le tout sous une relative, même une grande douceur quand même, plus de 15 degrés en moyenne dans le sud.
Merci Claire.
RTL Soir, les dessous de l'actu.
Dans les dessous de l'actu ce soir, le défi de la continuité des transports face à Omicron. Plus de 2000 vols annulés aujourd'hui dans le monde. C'était 7000 ce week-end entre cas positifs et cas contacts. Comment, en France, les compagnies gèrent-elles la situation? La question est centrale, a fortiori en cette période de vacances. Il faut permettre aux voyageurs de partir, mais surtout de revenir. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
D'abord, justement, dans l'aérien, il y a des dispositifs spéciaux qui sont mis en place.
Alors spéciaux non, mais renforcés, oui, ça c'est certain. L'aéroport de Roissy, chaque jour, des pilotes, hôtesses et stewards d'Air France attendent d'être déclenchés en cas d'absence inopinée d'un de leurs collègues. Résultat, le vol peut tout de même partir et se faire. Ce sont des employés de réserve qui ne savent donc pas à l'avance quel vol, dans quel vol ils vont partir. Et leur nombre est augmenté en cas de besoin, évidemment, et notamment en fonction de l'évolution des cas contacts dans la compagnie. C'est la même chose, par exemple, chez EasyJet, par exemple, et la taille de ces équipes de réserve varie en fonction de la situation sanitaire et bien sûr des prévisions.
Et sur les rails, Arnaud, il y a eu des annulations ces derniers jours, des TER qui n'ont pas pu rouler faute de personnel. Est-ce que ça peut être amené à se reproduire?
La réponse est oui, car il y a bien des conducteurs de trains remplaçants sur les TER, mais ils sont moins nombreux que sur les lignes nationales empruntées par le TGV Inouï ou encore les Ouigo. Il faut savoir que chaque jour, comme pour les avions, il y a des conducteurs qui sont d'astreinte dans les grandes gares françaises. Et en cas d'absence, eh bien d'un agent de conduite, c'est eux qui prendront les commandes du TGV. Mais attention, le conducteur ne peut conduire que sur les lignes sur lesquelles il est certifié et avec un train en particulier. S'il est certifié par exemple sur le Paris-Marseille, en TGV, il ne pourra donc pas faire un Paris-Lille comme ça, au pied levé. Seuls quelques conducteurs en France ont cette certification. Voilà pourquoi ce système a tout de même une limite.
Oui, il y a des conditions quand même de sécurité à respecter. Cette vigilance des opérateurs, elle est aussi de mise pour les réseaux de transport en commun dans les grandes villes.
Oui, pour l'instant, pas de problème pour les conducteurs de métro parisien, mais il y a tout de même une vigilance pour les conducteurs de bus. Si le nombre de cas contacts et de malades se multiplie, eh bien la RATP, elle adaptera son plan de transport sur certaines lignes. Rappelons aussi que le trafic n'est toujours pas revenu à 100% dans la capitale.
Les dessous de la continuité des transports face à Omicron. Avec vous, Arnaud Touche, spécialiste des questions de mobilité pour RTL. Merci Arnaud.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
En 4.
Laissez-vous tenter. Dernière.
On va s'offrir un peu de fantaisie et de couleur à présent dans RTL Soir. Grâce à vous, Laurent Marsic, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, il y aura peut-être des jauges, mais la vie culturelle, pour l'heure, n'est pas à l'arrêt. Et en cette période de fête, vous nous emmenez donc au Théâtre du Gymnase à Paris pour l'adaptation d'un classique de la littérature jeunesse qui avait donné lieu à un film en 2005, Charlie et la chocolaterie. Et ce spectacle vous a laissé sous le charme.
Oui, parce qu'on y retrouve tout l'esprit du film de Tim Burton avec Johnny Depp en Willy Wonka, l'excentrique fabricant de chocolat. Et on retrouve toute la poésie de Charlie et la chocolaterie, le livre donc de Roald Dahl. L'histoire, rapidement, si vous ne la connaissez pas, c'est un fabricant de chocolat à la renommée mondiale qui décide de passer la main. Il organise alors un concours mondial pour trouver son successeur.
Le fameux chocolatier Willy Wonka a inventé un incroyable concours pour les enfants. Il a caché parmi les nombreuses barres chocolatées qui sortent chaque jour de son usine 5 tickets d'or.
Quatre enfants sont alors les heureux élus, dont un petit garçon très pauvre, fan absolu de Willy Wonka, quand les autres sont tous, insupportables.
Lorsque M. Wonka a annoncé événement, Ben Veruca a fait connaître vif intérêt pour concours. Elle a dit
« Je veux un ticket tout de suite !»
Quand Veruca dit
« Viens !»
Je lui paye un magasin.
Avec musique en live et à la mise en scène de Charlie et la chocolaterie, Philippe Hersen, on lui doit plusieurs comédies musicales à succès, comme Priscilla, Folle du désert, Philippe Hersen.
C'était important de pouvoir monter ce show d'une manière très cinématographique. On a des projections, c'est vrai, il y a plus de 17 décors, c'est très lourd. Et si on retrouve l'univers de Burton, qui est très coloré, très contrasté, à la limite BD, sans le côté noir de Burton.
Derrière cette porte.
Et au-delà de l'esprit du film, il y a presque aussi Johnny Depp que vous avez retrouvé sur scène.
Moi, je le trouve incroyable dans son costume violet avec un chapeau de forme. Il ressemble vraiment à Johnny Depp. Cet acteur, chanteur, danseur s'appelle Arnaud Denisel.
Je voulais lui trouver ses petites failles de cynisme et aussi, comme j'aime à dire, je trouve que c'est un peu un ogre des contes de fées, en fait.
Il ne reste qu'un seul enfant, Monsieur Wonka.
Au rythme où vous perdez ses enfants, je commence à me dire que Charlie a des raisons de s'inquiéter.
Vous n'avez pas tort. C'est vrai que cette visite guidée est un véritable fiasco.
Voilà, franchement, c'est une très belle performance. Très beau spectacle. On va espérer que ça puisse continuer. À la sortie, en tout cas, le public était ravi, enchanté même. Charlie et la chocolaterie, Théâtre du Gymnase, jusqu'au 12 janvier, normalement, puis reprise à partir du 4 février jusqu'en mars.
Et il reste même encore des places, j'ai regardé, pour cette semaine. Merci pour le conseil, Laurent Marsic. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Dans un instant, l'équipe d'On défait le monde entre en piste. Oui. Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, bonsoir.
Bonsoir, on est tous là.
À tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.